Père, nous te rendons grâce ce matin de ta présence et nous prions instamment que ta parole puisse avoir un effet dans nos cœurs, car tu l'as promis qu'elle ne retournerait pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Oui, parle, ton serviteur écoute. Nous avons besoin de t'entendre et de nous soumettre à ta parole, de l'écouter, de la mettre en pratique afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Glorifie ton nom, Seigneur, et permets que nos esprits, en ce moment, ne soient pas perturbés par une chose ou une autre, mais puissent se fixer, se concentrer sur ta parole, et qu'ensemble nous puissions voir ce que tu as à nous dire ce matin, afin de pouvoir grandir, d'avoir encore ce privilège de t'aimer encore plus, pour mieux te servir, te connaître davantage, et mettre en pratique ta parole de façon visible, afin d'apprendre de ta part à nous conduire selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Ici, la traduction d'Arby, littérale, on dit, ce serait ceci à partir du verset 19, « Vous entretenant par des psaumes, et ensuite chantant et psalmodiant, rendant toujours grâce, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. » En fait, ici, dans ce passage, on voit les conséquences de ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a ceux qui pensent que d'être rempli du Saint-Esprit amène à des expériences assez extraordinaires, et donc ils pensent que d'être rempli du Saint-Esprit doit se voir de telle ou telle façon. Mais le texte ici nous dit tout simplement que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est s'entretenir avec des psaumes, avec des hymnes et des cantiques, c'est de chanter. C'est donc d'avoir un cœur joyeux, d'avoir un cœur reconnaissant, parce qu'il est écrit « rendant continuellement grâce à Dieu ». Donc c'est une attitude intérieure permanente et continuelle. C'est un participe présent ici. C'est une manière de vivre, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, même au travers des épreuves que nous pouvons vivre. Et le troisième conséquence d'être rempli du Saint-Esprit ici, c'est de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, sommes-nous remplis du Saint-Esprit? La Bible dit que le croyant rempli du Saint-Esprit a un cœur joyeux, car la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous avons vu aussi que rendre grâce à Dieu, c'est se fait d'une façon continuelle, et c'est parce que nous avons les yeux fixés sur Dieu, le Père, que nous lui rendons grâce pour toutes choses. C'est le fruit de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons regardé ce passage ici parce que Paul développe depuis le chapitre 4 la marche du croyant, les trois premiers chapitres étant ce que nous avons en Christ, et l'expression clé, bien sûr, c'est en lui, en Christ, et c'est merveilleux de savoir ce que nous avons en Christ. Il nous a placés en lui, et lorsque nous sommes en lui, on est régénéré, on est adopté, on est purifié, on est réconcilié, et c'est merveilleux de connaître Christ. Mais quand on est Christ, notre vie, notre conduite change, et l'apôtre Paul nous mentionne à partir du chapitre 4 la conséquence pratique du fait qu'on est en Christ. C'est une marche sainte. Et nous avons déjà vu, c'est un rappel, parce que ça fait quelques dimanches, n'est-ce pas, qu'on a déjà vu tout cela. Mais nous sommes proches de la fin, disons, de l'épître aux Éphésiens. On a vu que dans les premiers versets du chapitre 4, c'est la marche digne. À partir du verset 4, c'est la marche dans l'unité. On a vu aussi que le croyant, il s'identifie plus à la marche païenne. Au contraire, il est différent de ce qu'il a vécu auparavant. Il marche en nouveauté de vie parce qu'il a un nouveau cœur. Il marche dans l'amour, il marche dans la lumière, il marche dans la sagesse. Et enfin, nous regardons ici la marche remplie du Saint-Esprit. D'ailleurs, tout le passage ici, à partir du verset 18, nous mentionne ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit. On a vu ces trois points, on va voir plutôt le troisième, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mais on voit que à partir du verset 22, Paul fait l'application pratique de la plénitude du Saint-Esprit au sein de la famille. Il parle du rôle du mari et de la femme. Aussi, il le met en pratique dans le rôle de la relation parent-enfant et puis de la relation serviteur-maître. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que d'être rempli du Saint-Esprit a des conséquences très pratiques et visibles dans nos vies et qui touchent en fait à notre conduite. La marche remplie du Saint-Esprit, c'est un commandement. Et donc, encore une fois, c'est chanter, avoir un cœur joyeux, un cœur reconnaissant et un esprit de soumission. Se soumettre les uns aux autres. La Bible dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Donc, je crois que la question que nous pose le Seigneur ce matin est toute simple. Est-ce que nous sommes soumis les uns aux autres ? Dans quel domaine devrions-nous nous soumettre ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis ? Et avons-nous la bonne attitude dans la crainte de Christ ? Que Dieu nous aide ce matin à comprendre ce que c'est que la soumission et la soumission les uns vers les autres dans la crainte de Christ. Qu'est-ce que la soumission ? Alors, on pourrait faire un test ce matin et faire un petit examen et demander à plusieurs, qu'est-ce que vous pensez que c'est la soumission ? La soumission, d'après le dictionnaire, c'est une disposition à obéir, donc à se soumettre. Être soumis, c'est donc être obéissant, docile, le contraire d'être rebelle et orgueilleux. C'est une disposition à accepter la dépendance. Nous savons ce que c'est que la soumission, et même des fois on a été contraint, n'est-ce pas, à se soumettre dans sa vie. Mais pourquoi est-ce que nous sommes si lents à nous soumettre ? Pourquoi nous sommes si promptes à être rebelles ? Parce que par nature, la Bible dit que nous sommes des enfants de colère, des enfants de rébellion. Et je vous lis le texte en Éphésiens chapitre 2, rapidement, vous n'avez pas besoin de tourner dans vos Bibles. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, de rébellion, comme les autres. » Par nature, nous sommes des enfants de rébellion et de colère. En fait, il est prouvé que des enfants qui ont été élevés dans l'injustice, notamment une relation difficile avec le père qui est l'autorité, souvent ensuite se rebellent contre l'autorité établie. Et je me souviens à l'école d'architecture où j'ai fait mes études, à un moment donné c'était une vague, n'est-ce pas, d'anarchisme, et sur les murs il y avait quelqu'un qui avait écrit « il est interdit d'interdire ». Il y a une rébellion, n'est-ce pas, qui se fait qui s'exprime de différentes façons. J'ai une anecdote, j'ai hésité à vous la donner, mais ça m'a fait sourire quand j'ai pensé, encore hier soir, en préparant ce message. Je me suis rebellé en tant qu'enfant. Et je me souviens une fois où j'ai osé dire à mon père, j'en ai marre de cette maison. Mon père était assez sévère, n'est-ce pas ? Je me souviens quand nous avions la soupe à midi qu'on n'aimait pas, il dit, bon, mais voilà, ton repas est terminé. Et le soir, nous avions la même soupe à manger, mon frère et moi. Et on nous mettait dans un coin, une méthode assez sévère, mais quelque part, ça portait du fruit. Mais un jour, j'osais lui dire, j'en ai marre de cette maison. Oh, j'étais tout jeune, hein, peut-être 7-8 ans, pour vous montrer que le cœur est rebelle assez jeune. Et j'étais en pyjama. Et mon père m'a dit, ah, t'en as assez de cette maison ? Eh bien, c'est bien, tu peux partir. Il m'a ouvert la porte, il m'a mis dehors. Le problème, c'est que j'étais en pyjama, je ne savais pas où aller, n'est-ce pas ? Et je me demandais si quelqu'un monte l'escalier, on habitait dans un immeuble, et me voit en pyjama devant la porte, ça va être vraiment bizarre. Et tout d'un coup, je réalisais que j'étais après, et il m'a laissé attendre quelque temps, n'est-ce pas ? Mais j'avais hâte de rentrer. Et je ne savais pas où aller, et j'ai compris la stupidité de mon action. On est rebelle dès le jeune âge, alors plus ou moins peut-être. Mais vous savez, comme a dit un jour un évangéliste, il n'y a aucun enfant qui est né en disant « Alléluia ». La nature humaine est collée à notre peau, pour ne pas dire à notre cœur, et nous sommes des enfants de rebelles et de colère par nature. Et nous sommes rebelles, ce qui s'exprime aujourd'hui de tellement de façons. Mais ce n'est pas quelque injustice qui nous pousse à la colère, à la rébellion. C'est notre nature qui est foncièrement rebelle et insoumise. Il faut comprendre ça. En fait, nous devrions apprendre à nous soumettre tout d'abord à Dieu. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu. Et en Hébreux 12, verset 9, il est écrit « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous avons vu d'ailleurs en Hébreux 12 le châtiment de Dieu, qui était une partie de ce chapitre, n'est-ce pas ?» Et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dieu nous demande, en tant qu'enfants de Dieu régénérés, d'être soumis maintenant à Dieu le Père et aux Écritures. En fait, qu'est-ce que ça signifie ici dans le contexte, se soumettant les uns aux autres? Le mot grec ici est intéressant parce qu'il pourrait être traduit tout simplement « se placer sous ». Ça veut dire que les chrétiens remplis de l'esprit se placent les uns sous les autres. Retenez bien ce que je vais dire ici. L'idée est celle de subordonner ses droits à ceux des autres, d'accepter de se soumettre aux autres. Quand j'ai fait mon service militaire, alors là aussi, je n'étais pas trop pro-militaire et pro-armée, mais bon, par différentes circonstances, j'ai travaillé pour un colonel et j'ai vu un commandant entrer... Dans le bureau, enfin un lieutenant exactement, avec un respect pour les autorités supérieures, une soumission qui m'a frappé. Et je me suis dit, mais quelque part, tu es peut-être loin d'être aussi prompt à avoir cette attitude. En fait, c'est exactement le terme qui pourrait être utilisé dans l'armée, se placer sous. La Bible dit que se soumettre les uns aux autres, c'est se placer sous les intérêts des autres, prendre soin des intérêts des autres et les droits des autres avant les nôtres. Alors, soulignons tout d'abord que la soumission est quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est possible parce que Dieu nous a donné son esprit et qu'en fait, la soumission, c'est la plénitude, c'est le reflet de la plénitude du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. C'est la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit ceci, « La plénitude et le contrôle de l'esprit nous conduisent à un esprit d'humilité. » C'est normal que soumission soit proche, n'est-ce pas, d'humilité. « Et un esprit qui nous communique le désir de rechercher le bien des autres avant le nôtre en nous soumettant les uns aux autres. » Et comme j'ai déjà mentionné dans le texte ici de l'Épître aux Éphésiens, en Éphésiens 5, verset 22, si on continuait, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Et ensuite, il est question de la soumission des enfants, la soumission des serviteurs envers leur maître. Encore une phrase clé que j'aimerais vous donner. La soumission est une attitude spirituelle générale qui doit être celle de tout croyant dans toutes ses relations. Le reflet de la plénitude du Saint-Esprit emmène dans le croyant, dans son être intérieur, un esprit d'humilité et de soumission. C'est extraordinaire de voir la soumission au sein de l'Église locale. Ça fait partie de la beauté de l'Église lorsque les frères et sœurs, dans un esprit d'humilité, sont prêts à se soumettre les uns aux autres. Ça fait partie de la beauté de Christ, de la bonne odeur de Jésus-Christ dans le cœur du croyant. Alors, dans quel domaine on devrait se soumettre? Il est bon de savoir que la Bible est claire là-dessus. Alors, tout d'abord, au sein de la famille. La Bible dit qu'on doit apprendre à se soumettre au sein de la famille. La Bible dit en Éphésiens 5, 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Remarquez bien que cette soumission qui est demandée amène un équilibre, parce qu'un peu plus loin, il est écrit « Le mari est appelé aussi à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Et on développera cela dans les dimanches suivants. Il y a la relation enfant-parent, Éphésiens 6, 1, « Enfants, obéissez à vos parents. » C'est « soumettez-vous à vos parents » et l'équilibre, c'est « les pères sont appelés à ne pas irriter les enfants ». Ensuite, il est écrit, chapitre 6, verset 5, « serviteurs, obéissez à vos maîtres », mais l'équilibre, c'est « maître et esclave ont aussi un seul maître qui est Dieu ». Ainsi, la soumission n'est pas quelque chose de déséquilibré, mais c'est au contraire le reflet de la plénitude du Saint-Esprit. Un commentateur a dit ceci au sujet de la famille, j'aimerais vous le lire parce que je pense que c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle dans notre société. Une des pires catastrophes de notre époque est la mort progressive de la famille telle qu'elle était traditionnellement acceptée. L'infidélité conjugale, l'exaltation du péché sexuel, l'homosexualité, l'avortement, le mouvement de libération de la femme, la délinquance et la révolution sexuelle en général, tout ça a contribué à la destruction de la famille. Chacune de ces choses forme un brin de la corde qui étrangle rapidement le mariage et la famille. Nous savons aujourd'hui, en France notamment, que le taux de divorce est à peu près de 50% des gens qui se marient. Et donc, il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont sans des parents unis et ou qui sont élevés par un des deux parents. Les homosexuels, hommes et femmes, exigent le droit de marier quelqu'un du même sexe. Et nombre d'États, c'est un Américain qui a écrit ça, et de plus en plus d'églises reconnaissent une telle chose comme un droit. Certaines églises sont en faveur de l'homosexualité, pas particulièrement des églises évangéliques, heureusement, mais des gens qui se disent chrétiens et qui s'affichent dans une église sont en faveur de l'avortement même et de l'homosexualité. J'ai relevé dans Le Parisien, aujourd'hui en France, la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, assure dans une interview donc à ce journal que le gouvernement tiendra l'engagement de l'actuel président de la République qui prévoit l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Dans un an, les personnes de même sexe qui le souhaitent pourront se marier et adopter ensemble, affirme la ministre. Selon elle, les homosexuels doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un couple marié. Et c'est le ministre attaché à la famille. Et vous savez que, comme moi, si vous lisez les journaux, écoutez la radio, regardez les annonces à la télévision, il y a un projet de loi sur le mariage et l'adoption homosexuelle qui doit être présenté au Conseil des ministres le 24 octobre, ce mois-ci, dont nous pouvons être à genoux et prier. Un commentateur ajoute ceci, et ça fait réfléchir vraiment. Il dit, le pasteur d'une grande église évangélique aux États-Unis rapporte que bien que la plupart d'entre eux se disent chrétiens, au moins 70% de ceux qui viennent lui demander de les marier vivent déjà ensemble. Alors c'est certainement pas un modèle, n'est-ce pas, d'une bonne église évangélique. Beaucoup d'entre eux affirment que c'est la volonté de Dieu qu'ils se marient, mais en vivant dans une désobéissance si flagrante à ces normes, ils n'ont aucune façon d'être certains de sa volonté pour leur mariage. D'autres qui se prétendent chrétiens viennent pour être mariés la deuxième, la troisième ou la quatrième fois et prétendent néanmoins que le Seigneur les a guidés les fois précédentes. Tout cela, pour des gens qui se disent chrétiens, est le reflet d'un rejet de la parole de Dieu, d'une insoumission flagrante à l'ordre de Dieu. Et donc, nous voyons qu'au sein de la famille, le besoin de se soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, est tellement importante. Et le fait de pouvoir se soumettre les uns aux autres au sein de la famille doit être le reflet de la plénitude du Saint-Esprit, qui est une expérience due à l'obéissance aux Écritures. Ce n'est pas une expérience d'exaltation ou d'un sentimentalisme, n'est-ce pas, évangélique. C'est une obéissance à l'Écriture qui se soumet au commandement de Dieu. Donc nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre aux Écritures et à la parole de Dieu pour nous soumettre selon les lois de Dieu au sein du foyer. C'est ce que je voulais souligner ce matin. Il y aurait bien d'autres choses à dire, n'est-ce pas ? Le deuxième domaine dans lequel on doit se soumettre, c'est au sein de la société face aux autorités. Je dois dire qu'ayant vécu en Amérique du Nord, j'étais surpris de voir comment aux États-Unis ou même au Canada, on a une tendance à respecter profondément les autorités. Et quand vous avez vécu en France, n'est-ce pas, excusez pour nous les Français, il faut dire qu'on a une tendance très légère parfois à critiquer et à ne pas respecter les autorités. Quelqu'un a dit « Un pays ne peut pas fonctionner sans l'autorité de ses gouvernements, de son armée, de sa police et de ses juges. Heureusement que Dieu a établi des autorités dans notre société. Nous ne voulons pas vivre l'anarchie, n'est-ce pas ? Il est interdit d'interdire, ça ne marche pas comme philosophie dans ce monde. Alors de telles personnes n'exercent pas une autorité parce qu'elles sont elles-mêmes meilleures que toutes les autres, mais parce que sans la désignation et l'exercice d'une autorité ordonnée, un pays se désintégrerait dans l'anarchie. Et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas un gouvernement établi, certains pays vivent une anarchie avec des crises économiques, des crises sociales et beaucoup de rébellions, d'injustices vécues dans ces pays. Qu'est-ce que dit la Bible au sujet des autorités établies ? Alors vous connaissez certainement ce passage, en 1 Pierre 2, versets 13 à 15. « Soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. La Bible est très claire au sujet du fait qu'on doit se soumettre aux autorités. Et la Bible dit, donc en Romains 13, un autre passage bien connu, que toute personne, c'est sans exception, c'est-à-dire tout croyant, toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Lorsqu'on se révolte à l'autorité, la Bible dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Un croyant qui se dit soumis à Dieu va être soumis aux autres, va être soumis aux règles de Dieu au sein de son foyer et va être soumis aux autorités par respect de ce que Dieu a établi. Le troisième domaine dans lequel Dieu nous appelle à nous soumettre les uns aux autres, c'est évidemment l'Église, qui est l'endroit parfait, n'est-ce pas, du test de nos cœurs. Le foyer aussi est un bon test, n'est-ce pas? Ceux qui vivent auprès de nous, notre conjoint, nos enfants, ou réciproquement, voient bien ce qui est dans notre cœur, dans ce domaine. C'est pareil face aux autorités, c'est pareil au travail, lorsqu'on a un patron au-dessus de soi. Quelle est notre attitude face à ceux qui sont en autorité au-dessus de nous? Et puis, bien sûr, il y a l'expérience que les chrétiens ont au sein de l'Église. Certainement, l'apôtre Paul, ici, parle particulièrement de la soumission au sein, les uns aux autres, dans la crainte de Christ au sein de l'Église. Mais comme je vous ai dit, il parle largement après, à partir du verset 22, autant dans la société que dans la famille. La Bible, Paul conseille aux chrétiens de Corinthe d'avoir de la déférence, c'est-à-dire du respect, le même mot grec est là, pour ceux qui les instruisent et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Ainsi, la Bible dit en Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Aussi, en 1 Pierre 5, verset 5, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, vous soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » On voit que la soumission, dans ce passage encore, d'un Pierre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ce qui devrait caractériser les enfants de Dieu au sein de l'Église locale, c'est l'humilité, qui est le canal par lequel la bénédiction de Dieu réside pour une bonne relation entre les enfants de Dieu et le travail que Dieu demande au sein de l'Église. Nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre les uns aux autres, d'apprendre les uns aux autres. Ce n'est pas pyramidal une Église, c'est horizontal dans le sens que c'est Christ qui est la tête du corps et nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre les uns aux autres afin de grandir ensemble. Par expérience, je vais vous dire, est assez douloureux. Le manque de soumission réciproque et l'orgueil ou manque d'humilité amènent à la querelle. La Bible dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Je répète, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» L'égoïsme, l'orgueil, est à l'opposé de l'humilité et donc à l'opposé d'une bonne attitude intérieure remplie du Saint-Esprit, qui est la soumission réciproque. Voilà ce que dit un commentateur, et ça fait réfléchir, et il nous le donne, et je pense que c'est une exhortation à prendre. C'est toujours des cœurs dirigés par le moi, plutôt que par l'Esprit de Dieu, qui cause les conflits dans l'Église, dans le foyer, dans le mariage. Quand on insiste sur ses propres droits, ses propres opinions et ses propres buts, on rend l'harmonie et la paix impossibles. Vous savez que Louis et moi, nous essayons, quand il y a un mariage dans l'Église, de préparer les futurs mariés avec tout un livre à lire et à discuter ensemble, à venir parler avec nous. Et pratiquement dans chaque chapitre, lorsqu'il est question du rôle du mari, du rôle de la femme et tous les aspects de la vie conjugale, il y a un aspect où le couple doit apprendre l'un et l'autre à se demander pardon, à accepter qu'on a tort parfois, et à s'humilier envers l'autre, et à demander à Dieu le secours et la plénitude du Saint-Esprit pour avoir la bonne attitude au sein du couple. Le pardon réciproque et l'humilité est indispensable pour favoriser l'unité dans le couple. Et donc, on a largement la place dans un couple, comme au sein d'une église, à se demander pardon les uns les autres lorsque nous faisons des erreurs. L'humilité élève le croyant, n'est-ce pas? Tandis que l'orgueil qui résiste à Dieu est proche de la chute, nous dit la Bible. La vie centrée sur elle-même lutte constamment pour le sommet et repousse les autres en s'élevant dans son orgueil. Par contre, et je crois que dans une église, on doit particulièrement veiller à comprendre la motivation de nos cœurs ou de nos ambitions. Nous avons besoin d'être filtrés par la présence de Christ, sa douceur, sa paix et quelque part un brisement intérieur qui favorise la vie de Christ pour savoir nos motifs, pour connaître vraiment nos motivations. Par contre, la vie centrée sur l'esprit est prête à s'abaisser, à servir et élève les autres par son humilité. Le croyant rempli de l'esprit, au lieu de considérer seulement ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On connaît bien le passage en Philippiens 2, verset 4 qui dit cela. Tout chrétien rempli de l'esprit est un chrétien soumis. Je répète, tout chrétien rempli de l'esprit est un chrétien soumis. Où nous pouvons voir l'exemple de la soumission parfaite? Je pense que déjà dans votre esprit, n'est-ce pas, nous avons tous la réponse. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai lu et préparé ce passage, n'est-ce pas, et réfléchi, je dois dire, hier soir, j'avais une larme à l'œil, de penser que Dieu m'avait pardonné, moi qui étais rebelle par nature, et qui m'a fait grâce pour découvrir en Christ ce que c'est que la vie de Dieu et se soumettre à Dieu. Quelle grâce de connaître Dieu! Où serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas connu le Seigneur? Dans quelle rébellion, insoumission vivrions-nous? Mais l'exemple nous a été donné, l'exemple de Jésus-Christ, un exemple parfait. Philippiens 2, verset 8, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Quand nous avons des pensées de rébellion ou des attitudes de rébellion, pensons à notre Seigneur Jésus qui s'est humilié, qui est descendu du ciel, de cette gloire céleste, de cette égalité avec Dieu le Père, pour descendre, et vous savez, on a déjà étudié en Philippiens, dans les groupes de maison, les 7 étapes d'humiliation de Jésus qui sont mentionnées en Philippiens chapitre 2. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La soumission à Dieu n'est pas une option. La soumission envers Dieu et les Écritures est ce que Dieu nous demande en échange de notre compréhension de ce que Jésus a fait à la croix, qui nous a démontré son amour parfait et son obéissance envers Dieu le Père. Sa soumission nous a sauvés. Et c'est parce qu'il nous a sauvés que nous aussi, nous devenons des enfants obéissants. En Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, il est écrit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Dans la souffrance, nous obéissons à Dieu. Parfois, Dieu permet des épreuves parce que nous avons tendance à nous égarer. On a vu ça en Hébreux chapitre 12, où Dieu nous ramène, nous châtie de sa verge, et le châtiment est parfois sévère lorsque nous égarons, parce que Dieu veut nous apprendre à être des enfants obéissants. Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit et dire qu'on connaît Dieu, être en communion avec Dieu, Saint-Esprit, Jésus-Christ qui nous a manifesté une obéissance parfaite, et dans notre cœur vivre la rébellion au sein du foyer, vivre la rébellion face aux autorités, ou vivre, j'allais dire, l'irritation, l'insatisfaction, la rébellion, on voit au sein de l'Église, parmi les frères et sœurs, ça semble impossible, ce n'est pas logique. Un homme, une femme rempli du Saint-Esprit est quelqu'un qui est soumis quelque part dans sa vie. D'ailleurs, Dieu permet que nous avons toutes sortes de gens autour de nous ou de situations qui nous demandent de nous soumettre. Amen. Moi, ça me fait plaisir. Parce que c'est un bon exercice d'exercer l'humilité que Christ met dans nos cœurs. C'est parfois pas facile, n'est-ce pas? Mais en Christ, tout est possible. Ayant appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est extraordinaire. Jésus s'est soumis à Dieu le Père, il est devenu l'auteur d'un salut parfait, et parce qu'il a obéi parfaitement, nous pouvons lui obéir pour être sauvés. La condition du salut ici, c'est lui obéir, c'est-à-dire croire en sa parole, s'y soumettre, et obéir au Seigneur Jésus-Christ qui nous a enseigné. Bien que Christ était au commencement avec Dieu, était avec Dieu le Père, était dans le Père, comme le Père était en lui, il était néanmoins soumis au Père. C'est le rôle que la Trinité s'est donné, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans son enfance, dès son enfance, Jésus s'est voué à l'œuvre de son Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, il a dit. Il s'est soumis à sa volonté et il ne pouvait rien faire sans son Père. Et on voit dans tout l'évangile de Jean, Jésus soumis à Dieu le Père. Celui qui l'a envoyé. Je ne parle pas de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Et après, en Jean 15, il nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ce que Jésus a vécu sur la terre en étant soumis à Dieu le Père, maintenant il nous demande d'être soumis envers lui pour faire les œuvres que Dieu veut faire au travers de nous. Il n'y a pas d'œuvre spirituelle sans une soumission envers Jésus-Christ, son Esprit et Dieu le Père. Et Paul dit, en Corinthiens, et c'est un passage clé en expliquant la hiérarchie divine, créationnelle, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu et Christ ne sont pas égaux, mais Jésus, Christ, a accepté d'être soumis à Dieu le Père, de même Dieu nous demande aux femmes d'être soumises envers leur mari. Et nous regarderons ça en détail une autre fois. Nous devons continuer à regarder quelle est la bonne attitude intérieure de la soumission, et la Bible dit que c'est dans la crainte de Christ. On ne peut pas être soumis sans connaître Jésus. La vraie soumission est le reflet du fruit de l'Esprit en nous, mais c'est aussi un désir chez le croyant d'être soumis. C'est comme la Bible dit qu'on doit être humble, et la Bible dit « humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». On peut dire l'humilité est le reflet de l'Esprit Saint en moi, parce que quand l'Esprit Saint me remplit, je suis humble. En même temps, la Bible dit « humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». L'humilité est un désir que devrait avoir le croyant de vivre et d'expérimenter, et c'est la même chose, la soumission. Prenez au moins cette application durant cette semaine. Pendant toute la semaine, essayez de voir toutes les occasions où vous pouvez vous soumettre à quelqu'un d'autre. Et réjouissez-vous de montrer et d'exercer votre humilité. Vous allez être surpris comment le Seigneur va vous éclairer, ouvrir les yeux de toutes les circonstances dans la semaine où nous serons capables d'exercer la soumission réciproque. Nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. La force de notre soumission, c'est Jésus, c'est la crainte de Christ. Qu'est-ce que veut dire craindre? Il faut définir cela. Nous avons vu que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Maintenant, l'attitude intérieure, c'est dans la crainte de Christ. Qu'est-ce que c'est que la crainte? La Bible dit qu'il y a la crainte de Dieu. Je passe quelques versets rapidement, excusez-moi. Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a aussi la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, et le commencement de la sagesse, est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte du Seigneur, en Job, il est écrit, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Et en Actes 9, 31, il est écrit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » La puissance du Saint-Esprit dans l'Église primitive démontrait une crainte de Dieu, du Seigneur. Et dans la crainte de Christ, la Bible dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Mais qu'est-ce que veut dire le mot crainte? Nous avons souvent tendance à mettre le mot crainte avec l'idée de peur. Et effectivement, dans l'hébreu, le mot crainte est traduit par respect essentiellement, mais aussi par le mot peur. Et dans le grec, phobos, qui a donné le mot phobie, mais c'est écrit et souvent traduit par terreur. 47 fois dans le Nouveau Testament, le grec phobos, le mot grec phobos se trouve et signifie donc crainte et terreur essentiellement. Juste en résumé, brièvement, qu'est-ce que la crainte dans le cœur de l'homme ? La crainte est une conséquence du péché et c'est l'angoisse de l'homme devant un danger, qu'il soit réel ou supposé. Nous avons tous des phobies, nous avons tous des craintes, nous avons tous des peurs. Des fois elles sont justifiées, des fois elles ne sont pas justifiées. Mais la crainte de Dieu est autre chose. La crainte de Dieu, c'est le respect, notre respect, le respect de l'homme pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette crainte était absolument nécessaire et fondamentale pour que l'homme obéisse à Dieu et rejette le mal, haïsse le mal. Et Dieu bénit ceux qui le craignent, nous dit la Bible. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel, dit le psalmiste. Et dans le Nouveau Testament, on trouve dans l'Évangile, comme dans les Actes des Apôtres, que les disciples étaient remplis de la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu stimule la sanctification et l'amour fraternel. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous allez retenir cela, mais je l'ai souligné, encadré dans mes notes. Le respect que le chrétien a pour Dieu en tout temps forme la base de sa soumission volontaire à l'égard des autres croyants. Autrement dit, on ne peut pas prétendre être soumis à Dieu si quelque part on ne reflète pas dans sa vie de tous les jours une soumission envers les autres. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Comment peut-on prétendre être soumis à Dieu si on est incapable de se soumettre aux autres? Il y a des croyants qui veulent vivre isolés, seuls, si Dieu ne me parle pas. Si Dieu ne m'a pas parlé, alors je ne crois pas que ça vient de lui. Et pourtant, la Bible dit, n'est-ce pas, et exhorte les croyants énormément, l'expression l'un l'autre, les uns les autres, n'est-ce pas, est continuellement dans les Écritures, que Dieu parle par les autres. Donc je dois être attentif et me soumettre à écouter déjà les autres et voir ce qu'ils pensent. Et peut-être qu'ils ont des choses à me dire, que Dieu veut me communiquer, et si j'attends que Dieu me le communique, alors peut-être que je suis dans l'erreur. Une fois, j'étais dans une réunion et j'ai vu une personne qui n'avait pas du tout une bonne attitude, qui se rebellait même contre l'autorité. Et à un moment donné, j'ai dû lui dire, j'ai dit, je pense que ton attitude est blessante et ne vient pas de Dieu. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, la personne? Ah, ben le Saint-Esprit ne me l'a pas montré. Alors évidemment, on peut mettre le Saint-Esprit à sa propre dose, n'est-ce pas? Et ça arrange bien les choses. Bien sûr que le Saint-Esprit peut nous convaincre de péché, d'une attitude incrédule, insoumise envers Dieu ou envers les autres. Mais pensons à nous faire évaluer par quelque chose d'objectif, n'est-ce pas? Et dans notre relation avec les autres, en écoutant les autres. C'est bon d'écouter les autres et de se soumettre aux autres et de faire la part des choses. J'aimerais vous donner quelques versets qui parlent de la crainte, parce que je crois que nous oublions ce que c'est que la crainte. Et pourtant, c'est le commencement de la sagesse. La Bible dit « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de personne. » Nous devons apprendre à craindre Dieu parce qu'il est saint. Ce n'est pas mon chum, Dieu, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas celui que je veux mettre dans une boîte à qui je peux ordonner de faire des choses dans ma vie comme je l'entends. Un jour, je dois plier le genou et accepter que Dieu est mon maître. Parce qu'il est saint, il est Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, j'ai déjà lu ce verset, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la mesure où j'ai la crainte de Dieu dans ma vie, alors, quelque part, j'accepte à me soumettre aux autres. Parce que le reflet de ma crainte va se refléter dans mon attitude sainte envers les autres, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ce que nous vivons caché dans nos vies, Dieu le connaît. Et tôt ou tard, tout ce que nous vivons est mis en lumière. Nous devons avoir la crainte de Dieu pour nous sanctifier et le servir selon la crainte de l'Éternel, qui lui entend tout, voit tout. Bien sûr, il fait grâce envers nous, mais sa grâce n'est pas au détriment de sa sainteté, n'est pas au détriment de ses exigences. C'est facile de vouloir prétendre vivre dans la grâce, je dis ça entre parenthèses, mais ne pas vouloir les exigences de Dieu. Justement, la sainteté de Dieu me pousse à trouver la grâce de vivre selon les exigences de Dieu. Ni la grâce ni la sainteté sont facultatives dans nos vies. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Crainte de Dieu, c'est regarder à lui et le respecter. J'ai lu récemment, sur une revue hebdomadaire que je reçois, qu'il y a des jeunes de plus en plus qui sont condamnés dans les palais de justice par le juge, mais comme vous savez qu'il y a malheureusement, à cause de la multitude de gens en prison, il y a une grâce, enfin c'est pas une grâce, c'est une remise de peine en dessous de 2 ans, on ne met plus des gens en prison. Ils sont condamnés à 2 ans, on ne les met plus en prison. Et un juge qui parlait, il dit, c'est tout juste si on ne nous tutoie pas. Il n'y a plus de respect envers les autorités. Et ça se voit même dans l'application de la justice. Lorsqu'on ne craint plus le droit, la justice, et qu'on méprise ce qui, n'est-ce pas, la représente, alors on est en danger de crise, parce qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de crainte. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Le fruit de l'humilité, Proverbe 22:4, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Nous pouvons avoir tous les biens de ce monde, mais la plus grande richesse, c'est qu'on est Jésus. C'est d'avoir son humilité, parce que c'est une richesse, une gloire, une vie qui sont spirituelles. Conclusion. Je pense que vous êtes prêts pour la conclusion. En résumé, un croyant rempli du Saint-Esprit est un croyant qui chante des cantiques, qui a un cœur joyeux et qui loue son Seigneur. Le dimanche matin, venons à l'église remplie du Saint-Esprit et que chacun de nous, nous puissions louer le Seigneur. Jésus a dit un jour, même ces pierres, n'est-ce pas, pourraient parler en quelque sorte et me reconnaître. Louons le Seigneur le dimanche matin, ensemble, même une courte phrase, participons à la louange. Être rempli du Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu, à lui rendre grâce, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. En reconnaissant ce envers Dieu, son Père, pour toutes choses, même pour les épreuves. C'est parfois dans les épreuves qu'on est poussé à rendre grâce, on touche le fond. J'ai écouté hier soir, je le confesse, une présentation d'un jour de rugby, vous savez, j'aime bien le sport. Je ne vais pas dire le nom, mais il disait, c'est dans les moments les plus difficiles que je me suis élevé et que j'ai persévéré dans mon sport. Et c'est une vedette de rugby, hein, vedette de rugby. Il a dit, j'ai gagné, bon, il a gagné la Coupe du Monde avec son pays, l'Angleterre. Il a gagné toutes sortes de choses. Mais il a dit, c'est dans les moments les plus difficiles, quand j'ai perdu, que j'ai voulu gagner et m'améliorer. Alors, n'oublions pas, une grande pédagogie de la part du Seigneur, c'est parfois dans les échecs que nous apprenons le plus et que nous pouvons lui rendre grâce et connaître Jésus. Job a connu mieux Dieu au travers de son épreuve. On ne va pas retourner là-dedans. Se soumettre à Dieu et aux autres, voilà la plénitude du Saint-Esprit. Alors suis-je soumis dans ma famille, au sein de mon foyer, selon les lois de Dieu? Suis-je soumis à la société qui m'entoure, selon les lois de Dieu? Suis-je soumis dans l'Église, avec humilité, servant le Seigneur de tout mon cœur, en cherchant à servir avec un cœur humble. Vous savez, et c'est vrai pour chacun de nous, Dieu cherche à nous utiliser, chacun. Amen. Et le plus grand obstacle, ce n'est pas Dieu, hein, c'est qui? Ben, c'est nous. C'est nous. C'est terrible cela. Lui qui a tout fait pour nous à la croix, Jésus, qui est mort, qui a donné sa vie, nous osons lui résister. Nous qui allons passer l'éternité avec lui, nous ne nous soumettons pas encore à Dieu comme il le voudrait. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Suis-je rempli du Saint-Esprit? Ben, ici, il y a 3 tests. Hein? Le cœur joyeux, la reconnaissance, la soumission, on va dire souvent synonyme dans nos vies d'humilité. Alors, un impératif à vivre, et je relis le texte et je termine. Ne vous enivrez pas de vin. Ça a été l'objet d'un message, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est merveilleux. Dieu nous demande d'être sans cesse. Ici, c'est soyez sans cesse remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, et c'est ce que nous voulons faire en tant qu'Église, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De tout le cœur. Vous faites ça à la maison, à l'Église, de tout le cœur. Rendant continuellement grâce à Dieu, pas quand le frigo est rempli, quand la voiture est neuve devant la porte de la maison, vous comprenez ce que je veux dire. Rendant continuellement grâce à qui ? À Dieu le Père. Dieu le Père. Pour toutes choses. Ah, pas simplement les choses qui vont bien. Pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus. Parce que lui a transformé nos vies. Il nous fait voir les choses différemment. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Est-ce que nous vivons la soumission de Christ dans notre assemblée les uns et les autres?